Allô Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Bienvenue dans Allô Radio Immo sur Radio Immo, votre émission, hein, puisque c'est vous, les auditeurs, qui nous laissez vos questions. On y répond chaque semaine. Hein, ces questions, vous nous les laissez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn aussi. Allez-y, radio.immo. Chaque semaine, on reçoit deux experts. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée sur ce plateau de Delphine Herman, chasseur immobilier et fondatrice de Homely Youth.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Mais avec plaisir. Et vous êtes également responsable de la communication de la Fédération nationale des chasseurs immobiliers.
Tout à fait.
Ça fait beaucoup de choses, on en parlera justement. Et à ma gauche, Thierry Vignal, bonjour, président de Mastéos.
Bonjour.
Alors vous aussi, plein d'actualités, on va en parler. Donc Mastéos qui s'occupe de la recherche, l'acquisition, la valorisation et la gestion de votre bien immobilier. Et vous avez sorti une étude récemment, un sondage, enfin, vous en sortez régulièrement d'ailleurs. Et très intéressant à chaque fois, on les lit, on les décrypte sur Radio Immo. Donc on va en parler dans quelques instants. Et Delphine Homely Youth, donc vous êtes chasseur immobilier, chasseuse, on peut, ça se dit chasseuse.
Oui. On peut dire chasseuse.
Chasseuse. Ouais. Donc à Paris, en Normandie, Paris 92-78, Aix-en-Provence,
oui.
Et un peu en Normandie.
Un petit peu Normandie, oui.
Parfait, on va en parler aussi. On va commencer tout de suite avec des questions de nos chers auditeurs. On va commencer avec vous, Delphine. On rentre dans le vif du sujet. Oui. Est-ce encore le bon choix d'acheter à Paris? C'est parce qu'on en parle beaucoup, hein, sur Radio Immo, entre autres, mais alors.
Oui, parce qu'on lit différentes tendances sur les prix parisiens, notamment. Oui. On a mis du temps à comprendre qu'ils allaient peut-être un petit peu baisser. Alors, il se trouve que chez Homely Youth, on fait aussi, depuis le mois de janvier, un baromètre des prix du marché de l'ancien, à Paris notamment. Et donc, on a observé depuis le mois de janvier que les prix avaient effectivement tendance à diminuer un petit peu.
Oui, mais alors, est-ce que c'est dans tous les, les arrondissements ou pas?
Sur une tendance janvier-juin, on se rend compte qu'il baisse principalement dans la partie nord-est de la capitale,
d'accord.
Que le centre n'a pas perdu particulièrement de valeur et que les arrondissements extérieurs, proches, périphes, restent à peu près stables. Après Paris, alors c'est un petit cliché de dire ça, mais Paris restera toujours Paris. Donc même si on a une légère inflexion des prix, et c'est tant mieux parce qu'on atteint des niveaux incroyablement hauts, hein, la valeur moyenne, là sur le mois de juin, nous, on est sur des prix affichés dans notre baromètre, parce que l'idée c'est de mesurer la tension entre l'offre et la demande. Et donc du coup, on est à 12 688 euros en moyenne sur de l'ancien. Donc c'est juste
énorme.
On a des arrondissements comme le 6e qui arrive à 19 000 euros en moyenne.
Le mètre carré,
ouais, bien sûr. Donc, de toute façon,
le 6e, c'est l'arrondissement le plus cher
ouais,
de
tout
Paris.
À fait. Ouais, c'est le plus cher de Paris. Donc, de toute façon, il fallait qu'il y ait une petite correction. Donc là, on observe, on est autour de moins 2% depuis le début de l'année. C'est pas plus mal, étant donné les croissances à plus 3, plus 5 qu'on avait régulièrement sur les années précédentes. Mais pour répondre plus précisément à la question, est-ce qu'il faut toujours acheter à Paris? A priori, à moins d'un crack qui soit complet, c'est-à-dire sur l'ensemble du marché ou de la crise des subprimes qu'on avait connue en 2008.
Oui, c'est ça, une bulle immobilière. Voilà. Est-ce que c'est possible encore ou pas?
D'aucuns l'avaient envisagé au moment de la crise, du début de la crise sanitaire. Certains se sont dit, ça y est, ça va se casser la figure. Bon, au final, force est de constater qu'il y a une légère correction, pas plus. La pierre à Paris, ce sera toujours un investissement sécur. Et puis après, ça dépend aussi, si on parle de résidence principale ou de résidence secondaire ou de résidence, résidence secondaire au sens pied-à-terre ou d'investissement locatif. Quand c'est pour une résidence principale et qu'on a besoin de se loger à Paris, encore faut-il en avoir les moyens, mais de toute façon, on achètera à Paris. Et à fort à parier qu'on ne connaisse pas une chute démesurée des prix. Et puis, je vous dis, si Paris devait chuter de façon démesurée, ça veut dire que l'ensemble des grandes villes françaises se retrouvent dans la même situation. Et même, on en parlera tout à l'heure, mais les quelques desiderata de certains Parisiens de s'éloigner un petit peu de la capitale, soit pour la banlieue, soit pour les territoires, comme on dit maintenant, ne font pas
chuter Paris.
Chuter
il y aura toujours
Paris.
De la demande à
on
Paris.
A toujours de la demande à Paris. Elle s'est un petit peu calmée sur les premiers mois de l'année. En tout cas, du côté des chasseurs immobiliers, il faut voir qu'on a un public qui est assez CSP+, cadre, profession libérale, etc. Donc, pendant le premier trimestre, on a eu moins de demandes sur Paris. Et là, ça revient. Des familles qui ont besoin d'une chambre de plus, d'un espace de travail de plus ou d'un petit balcon.
D'accord. Thierry Vignal, un couple qui nous a écrit, à quoi faut-il réfléchir en premier avant de faire un investissement locatif ? Apparemment, ils veulent se lancer dans un investissement locatif. À quoi il faut réfléchir en premier ?
D'abord, évaluer ses capacités financières. J'ai pas mal de clients qui se lancent un peu à l'aveugle et qui pensent avoir tel budget, mais c'est un peu au doigt mouillé. Donc, l'idéal, c'est d'aller voir un courtier en ligne, par exemple, ils ont tous des simulateurs, c'est assez facile.
Sa banque, c'est pas possible ?
Si, on peut aller voir.
C'est moins bien. Un courtier, c'est mieux.
Non, mais il faut prendre rendez-vous, quoi. Un courtier, on se connecte. Il y a plein d'estimateurs en ligne. Et du coup, ça permet déjà de sizer un peu sa capacité d'emprunt, de voir à quel niveau d'apport on va pouvoir déployer ou non. Hein. Tout le monde n'a pas d'apport. Il y a beaucoup d'investissements locatifs qui se font avec peu ou pas d'apport. Donc voilà, premièrement, évaluer ses capacités financières. Deuxièmement, savoir quel type de stratégie on va entreprendre. Est-ce qu'on est là pour aller chercher du rendement ? Donc on est sur une stratégie un peu agressive financièrement, on va vouloir du cash flow positif, vraiment un complément de revenus.
Donc rendement, c'est quoi ? Ce qu'on rembourse par mois par rapport au loyer qu'on perçoit, c'est ça ?
De toute façon, il va y avoir des loyers. Hein, c'est l'idée d'un investissement locatif, c'est que les loyers puissent contribuer au remboursement de l'emprunt. Mm-hmm. À quel niveau est-ce que ça rembourse tout l'emprunt ou une partie ?
Une partie.
Et il y a aussi les charges. Hein, donc c'est pas juste l'emprunt, c'est l'emprunt plus les charges, la taxe foncière, l'assurance PNO, les frais de gestion, etc.
Ce qu'il faut pas oublier, ce qu'on a tendance à oublier quand on veut faire un investissement
locatif.
Je sais
pas, j'ai 1000 euros de mensualité, 1000 euros de loyer, donc je suis autofinancé. Bon, voilà. Donc est-ce qu'on veut, en plus du remboursement du prêt et des charges, un cash flow ? Ouais. En plus, ou non. Déjà, ça va dicter un peu le niveau d'agressif financière qu'il va falloir déployer. Et cette agressif financière, elle se traduit géographiquement. On va pas chercher du cash flow positif sur l'île Saint-Louis. On va pas en chercher au cœur de Bordeaux. On va en chercher à Roubaix, à Boulogne-sur-Mer, au Havre, à Maubeuge.
Mais est-ce que vous connaissez bien toutes les villes en fait de France, la rentabilité, on en parlera dans quelques instants, mais en fonction de la ville, voilà, ça change, ça.
Voilà, chaque ville a un profil de rendement et de risque. Alors c'est pas juste du rendement, c'est un rendement par rapport à un risque. Il y a des villes qui sont très peu rentables et quand même risquées. Il y a des villes qui sont très rentables et peu risquées. Alors ça c'est les pépites, mais c'est toujours un rendement versus un risque. Et en l'occurrence, si on a décidé qu'il nous fallait un complément de revenu, il va falloir prendre des risques géographiques. Aller à Perpignan et pas à Lyon. Voilà, donc quelle stratégie je vais adopter ? Après, cette stratégie, elle peut se décliner aussi sur le type de stratégie fiscale. Est-ce que je vais faire du LMNP, de la SCI à l'IS, du foncier ? Bon, ça, c'est un peu plus technique. Mm-hmm. Est-ce que je veux du neuf ou de l'ancien ? Alors, on sera peut-être un peu plus rentable sur l'ancien, généralement. Donc, évaluer ses capacités d'emprunt, définir sa stratégie. Est-ce que je veux du rendement ou du patrimonial ? Et du coup, où est-ce que je vais aller chasser mon bien géographiquement ? C'est pas forcément à Paris, on peut sortir de ces zones de confort et aller dans les territoires, comme tu disais. Voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est les choses auxquelles penser. Est-ce qu'il y en a qui envisagent, qui commencent à faire les démarches et qui s'aperçoivent que finalement, c'est pas possible de faire un investissement locatif ? Est-ce qu'il y a des personnes dans ce cas-là ?
Ouais, nous, l'année dernière, on faisait confiance un peu à nos investisseurs qui nous disaient « j'ai tant de budget, allons-y ». Et puis en fait, on se prenait des refus de prêt parce qu'on évaluait mal la capacité bancaire. Donc aujourd'hui, on a des process très stricts. En amont, on attend d'avoir des attestations de bancaire avant de se lancer. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est déjà être sûr de son budget pour ne pas perdre de temps et ensuite faire des offres d'achat sereinement dans les bonnes villes.
D'accord. Delphine, est-ce qu'il vaut mieux attendre pour acheter en première couronne comme les prix ont augmenté ? C'est vrai, on a vu une augmentation, surtout si on veut par exemple une maison, quelque chose avec terrasse, les prix ont augmenté. Est-ce que, c'est un auditeur qui demande ça ?
De toute façon, si l'idée c'est de partir en banlieue pour une maison, quoi qu'il arrive, la saison des maisons, si je puis dire au sens immobilier du terme, commence à arriver à sa fin. Puisqu'en règle générale, quand on parle de maison, on parle souvent d'un profil d'acquéreurs et de vendeurs qui sont des familles et qui aiment donc être en place pour la rentrée de septembre, la rentrée scolaire. Donc en général, les maisons commencent à arriver sur le marché entre janvier et mars. Au printemps, c'est la saison la plus importante. Et puis là, on arrive mi-juillet. Ça va commencer à ralentir. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut au moins attendre septembre, ça c'est sûr, parce qu'il y aura peu d'offres sur l'été. Ensuite, de toute façon, la tendance à l'augmentation sur les biens avec un extérieur, que ce soit des maisons, des appartements avec des grandes terrasses ou des raids-jardins en banlieue, c'était déjà une tendance avec des prix à la hausse avant la crise sanitaire. Quoi qu'il arrive, on constatait quand même...
C'était une exode déjà qui avait commencé?
Oui, souvent. Alors souvent, on sait aussi que là, on parle encore à nouveau des Parisiens, mais que Paris n'est pas principalement constitué de gens natifs de Paris. Donc on vient souvent habiter à Paris, soit pour des études, soit pour démarrer sa vie active, et puis on fonde éventuellement une famille. Et puis, à ce moment-là, on se dit, j'aimerais bien un petit peu plus de verdure si j'ai un ou plusieurs enfants. Et c'est là que, petit à petit, les profils non parisiens ont tendance à se dire, je vais aller un petit peu en banlieue ou carrément changer de vie. On reparlera du télétravail plus tard, mais ça, c'est un fait nouveau. Donc, de toute façon, les prix étaient déjà à la hausse. Il est vrai qu'avec les confinements qu'on a connus, une partie des Parisiens, notamment pas natifs de Paris, se sont sentis un peu à l'étroit dans Paris pendant le confinement, même si c'était très agréable parce que très calme, plus aucune nuisance sonore, les restaurants, les cafés fermés, plus de voitures. Mais souvent, il manquait une chambre supplémentaire pour éventuellement faire un bureau. Il manquait le petit extérieur qui permettait de mettre les enfants dehors pour jouer.
Un peu de verdure.
Exactement, un petit peu de verdure. Donc, ça fait qu'on l'a bien vu l'année dernière au déconfinement du 11 mai. Du 11 mai jusqu'à mi-juillet, nous, on a eu énormément de demandes de Parisiens qui voulaient sortir de Paris.
Ah oui.
Et la plupart voulaient acheter une maison.
En première couronne?
En première couronne, la plupart du temps. Et maintenant, depuis la deuxième partie de la crise sanitaire, c'est-à-dire depuis début d'année 2021, on commence à avoir de plus en plus qui commencent à nous dire « j'irai bien jusque dans les Yvelines ».
D'accord, soit s'éloigner pour...
ouais,
en fait.
Encore.
Directement des Parisiens ou des gens déjà de la première couronne?
Directement des Parisiens. D'accord. Là pour le coup, ils ne passent plus par la première couronne, ils oublient l'étape, ils se disent finalement je peux avoir une jolie maison pour le prix de mon appartement
plus
à Paris,
loin.
Plus loin. Donc ils sont prêts à faire plus de transport pour avoir une meilleure qualité de vie. Et donc on a pas mal de demandes sur les Yvelines, soit en résidence principale, soit certains qui se disent ok, je garde mon appartement parisien parce que finalement au quotidien ça me va bien, mais comme je vais sans doute pouvoir faire 1, 2, 3 jours de télétravail selon, c'est en train de se mettre en place dans les entreprises, je veux une sorte de résidence secondaire qui puisse me servir de résidence principale. Donc la fameuse résidence semi-principale, et celle-là, ils la cherchent moins en proche banlieue, mais plutôt notamment dans les Yvelines. On a beaucoup de demandes sur l'ouest parisien.
Ouais. Donc c'est une vraie tendance que vous avez ressentie.
Chez l'ensemble des chasseurs, parce que là je parle aussi bien pour Omniou qu'on échange souvent avec les différents chasseurs de la Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers, c'est une tendance qu'on a tous constatée.
D'accord. Oui, c'est intéressant de voir sur le terrain, parce que c'est là où on voit vraiment le ressenti des chasseurs immobiliers. Thierry, alors, une double question. Est-ce que c'est rentable d'investir dans un investissement locatif qui est loin de sa résidence principale? Donc, loin, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Ça peut effrayer. Et où il est préférable d'investir en 2021? Alors, ça, c'est un auditeur qui demande ça. Alors, oui, parce que c'est vrai qu'en général, on a quand même envie d'avoir un investissement locatif près de chez soi, mais c'est pas forcément le plus rentable.
Ça dépend où on habite, évidemment. La distance n'est pas un gage de rentabilité, évidemment aussi, parce qu'il y a pas mal de Parisiens qui, dès qu'ils sortent de l'Île-de-France, s'attendent à des rendements stratosphériques parce qu'ils ont fait l'effort de sortir de leur zone de confort, mais c'est pas automatique. Évidemment, si on va au centre de Lyon ou au centre de Bordeaux, on a des rendements qui sont assez proches de ceux de Paris, finalement. Oui. Donc ça sert à rien de faire des longues distances pour retrouver les mêmes rendements. Être près de chez soi, certes c'est pratique, après on est en 2021, on a quand même un peu de techno, on a des prestataires de plus en plus fiables qui sont capables de gérer à distance des biens, on peut avoir un suivi sur smartphone, etc. Donc on a une époque où on peut quand même confier la gestion de son bien à des gens fiables sur place. Donc c'est
mais
pas
après,
tant un problème.
Pour le début, peut-être pour les travaux, faut quand même calculer la distance si on a envie de s'y rendre.
L'idée de boîte comme Mastéos, c'est ça, c'est aussi de pouvoir déléguer à des gens qui peuvent gérer
de
les travaux. Alors de confiance, à qui on peut déléguer les travaux et la gestion et qui sont sur place pour les réaliser et qui font un suivi assez régulier avec le client qui est à Paris, par exemple. Donc, et la distance, elle se gère. Et surtout, il faut vraiment aller voir la data. Donc, chaque ville a un rendement locatif. On peut l'avoir sur le site Meilleurs Agents. On a le prix, le loyer, on fait la division des deux, ça donne le rendement. Et donc, on arrive à voir les différents rendements des différentes villes. Et le niveau de risque, il peut s'estimer. Il y a un moyen assez simple. On peut mettre une annonce sur Le Bon Coin, voir le nombre de retours qu'on a sur une annonce en location et puis estimer en gros le niveau de tension locative. Et une fois qu'on a le rendement et la tension locative, on arrive à se dire Marseille, je suis à 7% de rendement en moyenne versus mes 3 de Paris. J'ai eu 15 retours en 24 heures sur mon appart, sur mon annonce, là, sur le Bon Coin.
Ça part bien.
C'est le bon plan. Donc, c'est comme ça qu'on teste un peu un marché. On n'y va pas au doigt mouillé. Et c'est pas parce qu'il est loin qu'il est rentable.
Oui.
Voilà. Et où est-ce qu'il faut investir?
En 2021. Du coup, c'est votre étude. Voilà. Les villes les plus intéressantes.
Alors, c'est vrai qu'on a fait pas mal. La dernière en date, Paul & Roll, auprès de 1000 interrogés. On se cherchait surtout à savoir quelles étaient les villes préférées des Français pour ce genre d'investissement. Ce qui n'est pas forcément le même classement que nous, en tant que professionnels. Et bon, c'est les coupables classiques. On avait de mémoire Nantes en haut, enfin le trio Nantes, Bordeaux, Lyon. Donc des villes assez classiques, rassurantes, très patrimoniales. Mm-hmm. Après,
Nantes, on se dit quoi? C'est une ville étudiante, il y aura forcément... et puis ça a pas mal augmenté ces dernières années.
De toute façon, oui, Nantes, c'est une très bonne ville. Enfin, de toute façon, toutes ces villes-là sont excellentes. Le sujet, c'est pas... on prend zéro risque à aller à Nantes, à Rennes, à Lyon ou à Bordeaux. Ce sont des villes qui sont exceptionnelles. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est... qu'est-ce que j'ai en rendement supplémentaire par rapport à ma ville où je vis et quel risque j'ai en plus. Si je vais à Nantes, j'ai un rendement qui n'est pas incroyable. Hein, je vais être à 4 au lieu d'être à 3 à Paris. J'ai un risque qui est similaire à celui de Paris. Est-ce que je gagne beaucoup à aller à Nantes plutôt qu'à Paris? Je ne sais pas. En revanche, il y a des villes... Alors après, on peut aller en périphérie de ces grandes villes et c'est là où ça devient intéressant. Par exemple, si je vais à Bordeaux, bon, Bordeaux, c'est complètement saturé. Les prix sont hyper élevés. C'est du quasi Paris. Il n'y a pas de renta. Donc au lieu d'aller à Bordeaux, je peux peut-être regarder autour. Il y a Saintes, il y a Cognac, il y a Marmande. C'est des petites villes avec des rendements qui sont deux fois, voire deux fois et demi plus élevés. Et on reste dans le bassin d'emploi bordelais. Je pense aussi à Lyon. Près de Lyon, il y a Saint-Fons. C'est une petite ville, je pense comme ça, qui est à 15 minutes de Lyon, où il y a une renta à 8. Voilà, il y a ce genre de ville. On a des bien meilleurs rentas. On reste dans le pôle d'attractivité de la ville. Donc, c'est une histoire aussi de data, comme on dit, et de bonne évaluation du rendement versus risque.
Est-ce qu'il y a des villes à éviter, là, en 2021?
Moi, j'éviterai les villes qui ont été vues, revues et complètement saturées. En gros, les villes qu'on a citées, en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment... je dis pas allons tous à Roubaix, je dis juste, il y a un entre-deux assez intéressant. Marseille fait pas partie du top 10, moi, c'est la ville où j'investirai en priorité.
Par exemple, c'est Marseille, par exemple.
Voilà. Bah, mes clients, c'est Marseille. Nous, on fait une centaine de ventes par mois, on en a une bonne moitié qui, en ce moment, part à Marseille, alors que l'année dernière, c'était plutôt du Lille. Donc, on voit des tendances se dessiner. En sortie de confinement, il y a un héliotropisme, c'est-à-dire que les gens veulent du soleil, et du coup, on voit que les villes dans le littoral sud, notamment Marseille, marchent bien parce qu'elles sont à la fois rentables, ensoleillées, avec un fort potentiel.
Et les prix augmentent?
À Marseille. Ouais, c'est manifeste.
Dans tous les arrondissements?
Ouais, quasiment. Même ceux qui étaient complètement décriés, ils augmentent, ça augmente partout. Ouais.
Delphine, vous justement, Niou, vous cherchez des appartements, enfin des biens à Aix-en-Provence. Et c'est pareil, vous voyez cette envie de soleil
Alors oui, on a eu énormément de demandes depuis le début d'année pour soit des Parisiens, encore eux, qui voulaient aller s'installer dans le sud, donc notamment à Aix-en-Provence, soit même des étrangers, toujours dans l'idée de se dire je vais pouvoir télétravailler, et donc 3 heures de TGV, ça le fait, donc j'y vais. Oui, et alors pour le coup, à Aix-en-Provence, le marché est un petit peu plus homogène qu'à Marseille, puisque Marseille, en fonction des arrondissements, c'est quand même très différent. La qualité de vie n'est pas la même, et la qualité des locataires pour de l'investissement locatif ne sera pas la même non plus. Aix-en-Provence, c'est un petit peu plus homogène, et donc ce qu'on a constaté de façon parfaitement homogène, c'est la flambée des prix, pour le coup, à Aix.
C'était déjà cher. Hein,
c'était déjà avant, cher. C'était plus cher que Marseille, forcément, mais Aix est une ville un petit peu plus bourgeoise, sans vouloir vexer les Aixois que je connais bien, mais c'est une ville un petit peu plus bourgeoise.
Non, mais je crois qu'ils en sont fiers, en plus.
Tout à fait. Oui, il y a une grosse rivalité entre les Aixois et les Marseillais, je la connais bien. Et donc, oui, on a vu une flambée des prix, notamment des maisons. Ouais. Les maisons à 5-10 minutes d'Aix-en-Provence, avec la gare TGV, l'aéroport pas loin, plutôt les communes un petit peu CSP+, justement, Aiguille, Puricard, le Tolonnais, etc. Et là, pour le coup, on est sur des prix de maison pour à peu près les mêmes surfaces qu'en très très proche banlieue ici, par exemple à Suresnes, Saint-Cloud. On va se retrouver avec alors une maison avec une magnifique piscine, hein, en général, mais elle aura le même prix pour à peu près la même superficie, 150-200 mètres carrés à Aix-en-Provence.
D'accord.
Donc le pouvoir d'achat du Parisien qui se dit avec mon budget, je vends ma maison ici. Pardon, pas parisien, banlieusard, proche banlieue. Je vends ma maison ici qui vaut 1,5 million, 1,6 million par exemple, hein, parce qu'on monte vite à ces prix-là pour avoir 3-4 chambres ici. Forcément, Aix-en-Provence, je vais être le roi du pétrole. Se retrouver avec exactement le même nombre de chambres. On ne sera pas dans la ville, hein, on sera juste à côté, dans des chouettes quartiers. Non loin des commodités, mais il faudra prendre sa voiture pour aller chercher le pain, pour aller chez le boucher, faire ses courses. Ce ne sera pas la même vie exactement qu'ici, donc... On peut envisager que ce soit plus qualitatif parce qu'on a de jolies vues et de jolis champs autour de soi. En revanche, on aura en fait la même maison. D'accord. Donc les prix ont énormément augmenté avec ça.
Thierry, tout à l'heure, quand vous disiez que vous aviez des clients, donc pas mal d'investissements à Marseille, c'est des clients de d'où en fait qui investissent ? Est-ce que c'est des Parisiens qui investissent, qui font de l'investissement locatif à Marseille ?
Oui, ça c'est dû à notre équipe actuelle. On est une équipe moyenne d'âge 28-29 ans, on est parisien, donc on attire des clients qui nous ressemblent pour le moment. Alors on essaye de s'élargir à des locaux, c'est-à-dire des Bordelais, des Lyonnais, etc. Mais aujourd'hui, le client type, c'est un trentenaire qui a un poste en CDI dans une boîte qui a une capacité d'emprunt qu'il n'utilise pas et donc qui veut l'exploiter. Mais il n'y a pas de... Honnêtement, on balaye tout le spectre. Hein. Ça va de 22 ans à 70 ans et ça va du... des revenus minimum au quasi milliardaire, qu'on a vraiment tous les profils de clients possibles.
D'accord. Ah oui, c'est large. Delphine, qu'en est-il des délais des banques pour les offres de prêts? On en parle beaucoup des banques en ce moment et c'est vrai que nos auditeurs, ça pose parfois problème. Alors, on parle des banques qui sont plus exigeantes. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai. Alors, qu'elles soient plus exigeantes, c'est vrai. C'était déjà un petit peu le cas avant la crise, mais forcément, là, avec certains ménages qui ont été fragilisés par le chômage partiel ou potentiellement là, on attend de voir d'ici fin 2021, puis selon les secteurs, si vous êtes dans l'événementiel, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, c'était quand même un petit peu compliqué. Donc, il valait mieux rester au chaud chez soi, hein, qu'on soit locataire ou propriétaire. Il valait mieux ne pas avoir besoin de bouger, si c'était possible. Oui, alors, les banques, en fait, elles étaient déjà avant la crise sanitaire assez submergées de demandes parce que les taux étaient excessivement bas. À l'époque, elles regardaient un petit peu moins, on va dire, les différents profils. Elles étaient un petit peu moins sélectives, mais donc elles avaient une très très forte demande. Elles avaient du mal à tenir les délais. Alors, le délai de 45 jours qu'on mettait souvent à l'époque entre une promesse et un acte authentique, c'est-à-dire le délai pour obtenir son offre de prêt, on avait du mal, en général, à respecter les 45 jours. Déjà, on mettait souvent, on essayait d'expliquer aux vendeurs surtout, qui avaient du mal à l'entendre parfois, qu'il valait mieux, par précaution, inscrire 60 jours et avoir une bonne surprise, que de toute façon, mettre 45 alors qu'on savait bien qu'aucune banque ne le respecterait. L'ennui, c'est que, premier confinement arrivant, le télétravail n'était pas encore complètement mis en place dans les banques, donc elles ont pris 2 mois de retard sur le traitement des offres.
Oui.
Et donc du coup qu'elles ont eu du mal à rattraper, y compris pendant l'été qui a suivi forcément, puis régulièrement les études notariales et les banques sont quand même en activité réduite, hein, du 15 juillet au 25 août. Et donc c'est une espèce de course contre la montre pour essayer de rattraper le retard qui n'a toujours pas été rattrapé.
Donc là il y a toujours le retard du premier confinement.
Ouais, aujourd'hui les 60 jours pour éditer l'offre de prêt, on n'a pas une seule transaction sur laquelle ça puisse être respecté, même quand notre client a fait toutes les démarches en amont et qu'il n'attend plus que son document de promesse pour le fournir à la banque et qu'il avait réuni tout ce qu'il fallait, parce que l'intérêt aussi d'un chasseur immobilier, c'est qu'on vérifie le financement de nos clients en amont. On ne démarre aucune recherche sans avoir validé qu'il soit finançable, donc soit avec notre courtier, son banquier, quoi qu'il arrive. Donc tout est déjà prêt, on n'a plus qu'à ajouter la promesse. On n'a plus aucune transaction, y compris quand on n'a pas de conditions suspensives d'offre de prêt, qui puisse respecter ces 60 jours. Et ça tend énormément les relations, parce que les vendeurs ne comprennent pas, trouvent déjà ça très long, en général. Parce que, parfois, ils ont une acquisition pour eux, hein, de l'autre côté. Alors, parfois, ils vivent la même chose pour leur acquisition.
Oui, donc ils se rendent compte que ce n'est pas évident.
Oui, mais... Oui,
mais ils ont quand même envie de vendre,
plus vite. Donc ça tend énormément les relations et on a souvent une menace qui nous plane au-dessus, soit par l'agent immobilier quand il y a un intermédiaire, soit par le vendeur, de dire bon, puisque c'est ça, je reprends mon bien, je le vends à quelqu'un d'autre. Donc, on essaie de leur expliquer que ça ira pas mieux ailleurs,
ça prend
encore plus de temps. Mais ça tend beaucoup les relations et on aimerait bien que les banques puissent fonctionner différemment et ne serait-ce que peut-être par moment s'engager sur un délai. La difficulté aujourd'hui, c'est pas forcément de se dire ils vont dépasser les 60 jours, ils sont peut-être à 65 ou 70 jours.
Le moment est fixé.
Quand est-ce que vous pensez qu'on pourra l'avoir? Et ils ne s'engagent jamais sur aucun délai. Donc si les banquiers ou les courtiers nous écoutent, s'ils pouvaient changer ce process-là pour au moins dire, voilà, fonction de la masse de...
Et ça tend aussi les notaires.
Ah ben, clairement.
Les notaires et les banques, c'est...
Ouais, ça tend les relations entre tout le monde. Entre le notaire acquéreur, le notaire vendeur, entre le vendeur et l'acquéreur. Donc ce n'est confortable pour personne, alors qu'on a quand même l'argent de ces ménages en jeu, qu'on parle du vendeur ou de l'acquéreur. Dans les deux cas, c'est un moment super important pour les personnes qui achètent comme pour les personnes qui vendent. Qu'on parle d'investissement locatif ou de résidence principale, c'est la même chose. C'est un enjeu. Enfin, c'est le poste dépense numéro un.
Ouais.
On se met potentiellement un prêt sur le dos pour 15, 20, 25 ans. L'insécurité qui est procurée est assez peu confortable pour les uns comme les autres.
Thierry, vous l'avez ressenti, vous aussi, ce délai qui se rallonge pour vos investisseurs?
Ouais, c'est clair.
Ça l'étend aussi.
C'est la principale cause de tension et quasiment. Enfin, vraiment, on peut parler de violence entre notaires, banquiers, vendeurs. Ouais. C'est le problème de notre secteur, c'est que c'est un secteur avec des enjeux financiers qui sont tellement élevé qu'il y a une forme de violence qui vient naître assez rapidement du moindre frottement. Oui. Et en l'occurrence, les banques, effectivement, 30 jours, c'est inenvisageable, 60 aussi. Moi, je suis sur des délais de... Oui, bah moi, mon délai, c'est 5 mois, en gros, en moyenne, entre l'offre et le closing.
Mais déjà, avant le confinement, enfin moi, j'ai un exemple en tête. Avant la crise, etc., ça avait pris 3 plombes. J'avais un notaire qui avait envoyé
plombes,
des...
3 plombes, c'est quoi, mais... c'est
6
mois?
C'était 3, 4... Non, c'était... 3 fois plus, ouais, c'était 3 mois en plus, quoi. Ouais. Et le notaire qui envoyait des mails assassins à la banque, et au final, on a l'impression que les banques s'en fichent un peu, en fait.
Alors, tout le monde se fait violenter, hein. Le notaire, le banquier, tout le monde.
Mais comme le banquier ne s'engage sur aucun délai, en fait, c'est toujours le même principe. Ouais. Si on n'a pas d'objectif, on ne saura jamais qu'on ne l'a pas atteint. Donc,
parfois,
si on
est de fixer, en fait, à l'avance, dire ça prendra 5 mois.
5 mois, ok, ben on le sait, et on s'organise, et on prévient les gens. Ce qui est le plus compliqué pour le vendeur, comme pour l'acquéreur et pour les intermédiaires qu'on est, c'est de ne pas être fixé. Si on dit au vendeur, voilà, de toute façon, il y a de fortes chances que la banque ne puisse pas éditer avant telle date. Il le sait, il peut prendre ses précautions par rapport à éventuellement son acquisition, même chose pour l'acquéreur. Ce qui est compliqué, c'est de n'avoir aucune information, de n'avoir aucune perspective. Ouais. On l'a tous vécu pendant le confinement. Quand on nous reportait les confinements de semaine en semaine ou de 15 jours en 15 jours, on voyait plus
l'issue. C'est très angoissant, en fait.
C'est extrêmement anxiogène. Voilà, le jour où on vous dit peut-être que le 11 mai, normalement, il va se passer quelque chose, bon, bah, au moins vous avez un objectif.
Dans la tête, on a une deadline.
Exactement. Et donc, ça détendrait, dans le sens littéral du terme, les relations et les transactions.
Thierry, faut-il mieux investir dans le neuf ou l'ancien ?
L'ancien.
L'ancien, ah,
voilà, j'ai répondu.
C'est catégorique. Ouais. Pourquoi ?
Le neuf, on a tendance à l'acheter un peu cher parce qu'il y a la marge du promoteur, il paye sa TVA. Comme c'est du neuf, c'est naturellement pricé sur une fourchette haute. C'est en général dans des zones, ça rentre très souvent dans le cadre des régimes dits Pinel ou autres. Et ce que ces régimes impliquent, c'est qu'on aille dans des zones assez peu tendues, assez peu sexy finalement. Donc finalement, on se met à acheter un produit cher dans une zone... pas hyper
pas super,
sexy.
Attractive.
Et puis, on a des plafonds de loyer, donc on va pas... Par définition, on est obligé de louer à des locataires qui ne sont pas les meilleurs profils de locataires du marché. Donc voilà, je vois assez peu d'avantages, à part qu'il n'y a pas de stress de travaux, quoi.
Et alors, concernant les rénovations énergétiques, le neuf, ce n'est pas plus rentable par rapport à ça, non, que l'ancien ? Qui dit ancien dit souvent travaux.
Ouais, mais
surtout
travaux,
là, avec
pas...
la nouvelle loi climat et résilience, le volet se loger, l'interdiction de louer certains
les
types
passoires.
Exactement
bah,
de logement.
Et bah, on fait les travaux et puis ça
marche
très bien.
Même avec les travaux, ça reste quand même plus intéressant
tout
d'acheter l'ancien.
Tout ça se modélise financièrement, mais l'avantage de l'ancien, c'est comme on part d'un prix un peu plus bas que dans le neuf, on a un peu plus de marge
d'accord,
pour prévoir ce genre de choses. Après, on parlait de fiscalité sur le neuf. Je rappelle que les travaux, c'est une arme de défiscalisation assez puissante. Hein, on amortit les travaux en LMNP option réelle ou en SCILIS.
Justement, c'est une autre question, on va la faire en même temps. Est-ce qu'il est préférable de louer vide ou meublé ? C'était une autre question d'un auditeur.
Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est les avantages en termes de location et après, il y a le sujet des avantages fiscaux. En termes de location, le meublé crée plus de turnover. Dans le meublé, on pose ses valises.
C'est un an.
On peut s'en aller. Ouais, c'est ça. Déjà, le bail meublé, il dure un an au lieu de 3 en vide. Ouais. Et deuxièmement, les comportements des locataires ne sont pas les mêmes. Le meublé va attirer des gens qui sont là pour des durées assez courtes. Donc, ils posent leur valise, ils s'en vont au bout de, dès qu'ils ont un stage, ils s'en vont. Donc c'est pour un bailleur, c'est pas génial parce que le turnover, ça implique quand même de faire des états des lieux de sortie, des rafraîchissements, états des lieux d'entrée, recommercialisation, on remet l'annonce, faut refaire des visites, c'est un peu lourd et donc c'est peut-être pas avantageux. Alors sur du vide, en général, les gens restent 3 ans voire plus, donc il y a beaucoup moins de turnover. Et après sur le fiscal, le meublé, ça rentre dans le cadre du LMNP, loueur en meublé non professionnel, qui est un des régimes les plus avantageux fiscalement, tout régime confondu en ce moment. On parle même de le faire disparaître à l'Assemblée tellement il est avantageux.
Ah oui, le LMNP,
ouais, ouais. Malheureusement. Donc on a un peu d'incertitude juridique sur ce régime. Et oui, voilà, c'est surtout pour faire du LMNP, honnêtement, le meublé aujourd'hui. Mais on a des marchés comme
alors,
Bordeaux...
Alors en revanche, ça reste avec un bail d'un an, du coup, comme pas mal de turnover.
Ouais, c'est ça. Bon, ça se gère, hein, mais c'est vrai qu'il y a plus d'un.
C'est juste un peu plus embêtant pour le propriétaire, mais après, s'il fait appel à une à quelqu'un comme Mastéos, c'est possible de gérer.
De toute façon, j'aurais tendance à répondre le meublé à cette question. Hein. Dans tous les cas, l'avantage fiscal est trop fort. On peut facturer un loyer un peu plus élevé. On a des meilleurs locataires. Après, il y a des villes comme Bordeaux, il y a trop d'offres en meublé. Paris même aussi, et du coup, le vide parfois est loué plus cher maintenant parce que c'est quasi. C'est devenu rare avec le LNP, les logements vides. Les gens veulent mettre leurs propres meubles parfois.
Ah oui.
Donc maintenant, on voit un.
Après, ça dépend des villes, ça, je pense aussi.
Exactement. Mais Bordeaux et Paris, il y a une saturation du meublé, donc faut faire attention aussi.
Ouais. D'accord. Delphine, on va parler du métier de chasseur. Quel est le rôle d'un chasseur et est-ce qu'il s'arrête à la recherche d'appartements?
Alors, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. On en parlera plus tard. Ceux qui connaissent la référence.
Vous êtes responsable de la communication de la Fédération nationale des chasseurs immobiliers.
Le rôle du chasseur, en fait, souvent, alors c'est un métier qui a été énormément vulgarisé dans le bon sens du terme par Stéphane Plaza, n'est-ce pas, à la télévision. Donc maintenant, les gens se font une image de ce que c'est que ce métier. C'est un métier très récent à l'échelle de la transaction immobilière. On a une quinzaine d'années d'existence à peu près les uns les autres. Et donc notre rôle n'est pas uniquement ce qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire de trouver le bien qui correspond au cahier des charges. C'est la clé d'entrée, on est d'accord. Mais en amont, comme on le disait tout à l'heure, on a un rôle de sécuriser le projet tant du point de vue du financement que de la faisabilité. Hein, si on me dit je voudrais un 4 pièces avec une grande terrasse, mais obligatoirement dans l'ancien, à Paris, je vais devoir expliquer quand même à la personne qu'une grande terrasse dans l'ancien, ça sera un petit peu compliqué.
C'est sûr.
Par exemple, là, sur la faisabilité, ou qu'il le veut pour 500 000 euros. Bon, voilà, même principe. Donc, d'abord, on aide à dessiner le projet.
Ouais.
Ensuite, il y a la phase de recherche, dont je ne vais pas plus en parler que ça, parce qu'on est principalement connu pour ça. Mais en fait, on ne sert pas qu'à ça. Ça, c'est la partie qu'on voit quand on se dit, est-ce que je vais utiliser ou pas les services d'un chasseur immobilier? Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé potentiellement un appartement qui correspond aux besoins du client, on a un devoir de conseil sur le prix. Typiquement, on va dire, voilà, il est affiché tel prix, on l'évalue à tel prix et on pense qu'il va partir à tel prix. Mmh. Bon, on est du côté de l'acquéreur, hein, pas du vendeur.
D'accord.
Donc on va le conseiller pour qu'il l'achète au bon prix, prix du marché.
Alors que les agents immo sont plutôt du côté des vendeurs, c'est
ça? Alors l'agent immobilier, il est mandaté par le vendeur. Dans le cadre d'un mandat de vente, il va principalement défendre les intérêts du vendeur, évidemment. Nous, on est mandaté par l'acquéreur. Dans le cadre d'un mandat de recherche, on va défendre les intérêts de l'acquéreur. On essaie d'avoir une vision objective pour lui. Donc l'idée, c'est de sécuriser son acquisition. Donc on le conseille sur le prix. On le conseille éventuellement sur la négociation, s'il y a une négociation, parce que parfois notre conseil va être de dire, en fait, cet appart ou cette maison est affichée au bon prix, donc ça sert à rien de négocier, sauf à vouloir prendre le risque qu'il vous passe sous le nez parce que quelqu'un d'autre va le prendre, pourquoi pas. Mais on sert aussi et surtout à sécuriser la transaction après. Je prends un exemple, pour un appartement en copropriété, on va, alors là je parle principalement pour Homeliou, mais une grande partie des chasseurs le font, on va récupérer évidemment les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété, d'accord, les diagnostics techniques, on ne va pas juste les transmettre aux clients, on va les analyser.
D'accord.
Chez Homeliou, on va jusqu'à appeler le syndic s'il y a des questions, on fait, si on parle d'une maison, il nous est déjà arrivé d'aller à l'urbanisme pour demander l'attestation de conformité des travaux qui ont été faits parce que le vendeur n'avait pas pensé à le faire pour la transaction.
Vous enquêtez, en fait.
On enquête pour lui sécuriser la transaction, qu'il ait l'ensemble des points de décision en main. S'il y a éventuellement des travaux prévus dans l'immeuble, soit on le voit dans les PV d'AG, soit ça ne se voit pas, mais on va être capable de lui dire, parce qu'on a des formations sur la pathologie du bâtiment, par exemple, qu'il va falloir qu'il prévoie un ravalement dans les 5 prochaines années, etc. Et on fait le lien avec les notaires pour aller jusqu'aux signatures de promesses de vente et d'actes authentiques de vente, et on les accompagne physiquement. Hein. On relie les documents, on fait insérer les clauses qui défendent les intérêts de l'acquéreur et qui vont dans le sens de la transaction. Et après, chez Homeliou, on l'accompagne, s'il le souhaite, jusqu'à ce qu'il soit installé ou que son locataire soit installé, comme pour Mastéos, si c'est de l'investissement locatif. Donc, toute cette partie, en fait, une fois que l'appartement ou la maison est trouvée, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, en fait, et qui n'est pas forcément extrêmement mis en valeur.
Voilà.
La plupart des chasseurs d'appartements le font.
Ouais. Ouais, c'est bon à savoir, du coup. Thierry, est-ce qu'il faut envisager, vous en parliez tout à l'heure, d'apport pour un investissement locatif. Là, aujourd'hui, est-ce qu'il faut un gros apport pour envisager un investissement locatif?
Non.
Non, pas forcément.
Non, on a la chance d'être dans un pays où le système bancaire est très généreux.
Même depuis la crise.
Oui, non. Enfin, disons que le zéro apport, il est de plus en plus
difficile à obtenir. Oui, c'est plus compliqué
maintenant. Il n'est pas impossible. J'en ai fait un titre perso il n'y a pas longtemps.
D'accord.
Il y a des banques qui jouent un peu plus ce jeu. Il y a une banque un peu moins connue, une filiale du Crédit Mutuel qui s'appelle CAFCAL, CFCL, qui fait du sans apport. Mais j'en connais d'autres. Et ça se voit. Non, il ne faut pas stresser parce qu'on n'a pas d'argent sur son compte courant. Tant qu'on a un CDI, un salaire, qu'on a passé la période d'essai, on peut s'en sortir.
D'accord, ouais. C'est possible.
Ouais.
Mais c'est un vrai sujet pour plus tard aussi, parce que le monde du travail change énormément, ouais. Et le CDI sera de moins en moins le contrat qui sera le plus courant. On a de plus en plus de freelance, de micro-entrepreneurs, d'entrepreneurs, etc.
Les banques s'adaptent.
Il va falloir que les banques s'adaptent, tant sur la transaction d'ailleurs que derrière les bailleurs sur de la location, parce que le CDI va devenir petit à petit de plus en plus rare.
C'est vrai qu'on a on a reçu sur notre antenne des gens qui étaient à leur compte et qui avaient des très bons revenus mais qui n'obtenaient pas de prêts parce que en fait, et pourtant c'était dingue parce que ils avaient plusieurs années d'expérience dans leur domaine et des très bons revenus, etc., mais les banques ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils n'étaient pas en CDI.
Exactement.
Et ça, c'est vrai que ça devient problématique, hein. Il y a un gros souci à ce niveau-là.
C'est lié aussi à la façon dont le marché du prêt immobilier fonctionne en France, puisqu'il fonctionne sur la personne et non pas sur le bien.
Exactement.
Il y a peut-être une réflexion à mener, je sais que certaines banques le font, mais une réflexion à mener là-dessus aussi.
Contrairement aux pays anglo-saxons où ça fonctionne sur le bien. Donc on met plus d'apport, mais en revanche, le fait qu'on soit en freelance n'est pas un rentre-pas en ligne de compte.
On a donc des leçons à prendre. Eh bien, l'émission touche à sa fin, hélas, ça passe toujours trop vite. Merci beaucoup Delphine Herman, donc chasseur immobilier pour Homely You et responsable de la communication pour la Fédération Nationale des Chasseurs Immo.
Merci.
Et merci à vous Thierry Vignal, président de Mass Théos, qui s'occupe donc des investissements locatifs. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain Allô Radio Immo.
Allô Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.